le paradoxe est que la Coupe du Monde, qui a connu le plus fort succès populaire, c'est-à-dire le plus gros temps d'occupation des stades, le paradoxe, c'est que ça a été les États-Unis en 94, un pays qui n'est pas très foot du tout. Mais parce que les gens avaient, parce que c'était excentrique d'accueillir un mondial de football et parce que les gens avaient les moyens d'aller au stade, donc les stades étaient occupés. Un degré moindre, l'Allemagne en 2006, qui a été sur le plan organisationnel la plus aboutie, la plus réussie. Mais aussi parce que le niveau de vie là-bas est élevé. Mais dans d'autres pays, c'est vraiment très, très, très difficile. Vous avez parlé des problèmes économiques engendrés par l'organisation de grands événements. Je donne un exemple très simple et très connu parce qu'on suit chaque jour l'actualité de ce pays. C'est la Grèce. La Grèce est en train de payer encore l'organisation des Jeux Olympiques de 2000.
Qui ont mis à genoux l'économie.
Bien sûr, parce qu'à l'époque déjà, l'État s'était fortement endetté pour construire les infrastructures. Le problème dans ce genre d'événement, c'est que dans beaucoup de cas, les États ne préparent pas l'après-événement. C'est-à-dire, ces infrastructures, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Est-ce qu'elles seront rentables en dehors de ces événements? Le seul pays qui a réussi ça, justement, les deux seuls pays, ce sont les Allemands, l'Allemagne et l'Angleterre. L'Allemagne a bien géré l'après-mondial 2006 en s'assurant dès le départ un dispatching de ces sites sur des opérateurs économiques et l'Angleterre avait préparé la reconversion des sites. Par exemple, le stade qui a accueilli les épreuves d'athlétisme qui a été construit complètement, et ben il a été donné à West Ham, qui est un club de football. Donc c'est ça qu'il faut préparer. Or, beaucoup de pays pour seul souci d'organiser la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, pour prendre le cas de l'Angola, qui a construit 4 stades, mais 2 de ces stades sont actuellement absolument non rentables.
L'Afrique comme du celui... Sud pour la Coupe du
mais
Monde.
Mais l'Afrique du Sud, c'est un grand pays.
De...
Non, mais l'Afrique du Sud, ils peuvent gérer parce que c'est un grand pays, il y a des richesses, il y a de la pratique sportive. Mais par exemple, en Angola, la ville de Cabinda, qui est déjà une enclave, il y a eu des problèmes même avec la délégation de l'OE, parce qu'il y a des rebelles là-bas, du Togo. Il n'y a même pas un club à Cabinda. Ils ont un stade, très beau stade, de 25 000, 30 000 spectateurs. Mais comment l'exploiter? Maintenant, il est à l'abandon. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut penser aussi économie. Et comme je l'ai dit, la FIFA est très à côté de son argent. La FIFA impose, par exemple, des ristournes sur les revenus. Donc, en fin de compte, si on n'est pas très fort en marketing, on est plus perdant dans l'affaire que gagnant en organisant une Coupe du Monde.
Alors, vous pouvez également participer au 021 48 15 15. Le football est-il un sport de riches ou de pauvres? Aujourd'hui, nous sommes en 2014. C'est vrai que les clubs les plus riches, on l'a vu, hein, sont les mieux classés, les mieux, ils se permettent d'acheter les plus grands joueurs. Alors que les clubs peut-être les plus pauvres, ils ont du mal à s'en sortir. Doit-on revenir au sport amateur? C'est la question peut-être à laquelle il faudra répondre tout à l'heure. Vous pouvez donc participer, puis nous parler de cette Coupe du Monde, de l'équipe nationale. Ce n'est pas interdit. Notre équipe nationale va jouer contre de grands clubs. Que pensez-vous de ces chances? C'est dans un tout petit moment.
Samba pra gente, samba.